Bonsoir, vous êtes alors un départ en beauté avec les 20 ans de Dégenré et un plateau radio avoir 20 ans comme Dégenré que je suis très contente du coup d'animer. On reçoit plusieurs invités dans ce studio avec comme concept d'avoir à peu près 20 ans maintenant, comme vous l'avez compris, comme Dégenré. Ce qui me fait aussi du sens parce que c'était à peu près l'âge que j'avais quand j'ai commencé l'émission il y a 20 ans. Et on voulait un peu prendre les archives de Dégenré. On va écouter des petits extraits comme prétexte support pour discuter de féminisme et des évolutions du féminisme actuellement. Et on voulait commencer par un tour de présentation sur comment on est devenu féministe. Ou qu'est-ce qui nous a affirmé en tant que féministes, quelles références ont compté pour nous. On s'est dit que chacun chacune, ça pouvait être aussi bien des personnalités, des camarades, des écrits, des collectifs, des luttes. Et pour commencer moi aussi sur la présentation, moi j'ai l'impression que le féminisme faisait partie de ma vie. Quelque part, même enfant, enfin, où je me rappelle très clairement ne pas vouloir être une fille, mais être aussi très énervée quand on me disait « tu veux être un garçon ». Je pense que je me serais plus reconnue dans des identités non-binaires enfant, mais sauf qu'à un moment, j'ai décidé « ok, je suis une fille ». Ça s'est passé comme ça. Mais d'être aussi révoltée, je me rappelle dans ma scolarité ou avec des copines, d'injustice que je trouvais entre les garçons et les filles. Alors, je ne mettais pas forcément le mot « féminisme », mais ça traversait. Et j'ai l'impression avec l'adolescence, avec des trucs qu'on gagnait là-dessus. Et moi, je me rappelle les premières féministes, c'était un peu des militantes, notamment dans un squat à Lyon. On avait séché les cours, on y avait été avec une pote. Et à l'époque, je me rappelle, on s'était dit « waouh, elles sont géniales, elles sont trop impressionnantes. Par contre, cette histoire de la non-mixité, ça craint franchement, c'est vraiment trop radical. » Voilà. Après, on a changé et plein d'autres choses se sont passées. Mais c'est un de mes premiers souvenirs de rencontrer des personnes qui se disaient féministes. Et du coup, vous ?
Moi, c'est Vatna, j'ai 20 ans, du coup, comme Dégenré. Et je crois que j'ai commencé peut-être à me dire féministe, même si ça faisait un moment déjà que j'y pensais, en Colombie, quand j'ai fait une année d'échange l'année dernière. Parce que les mouvements féministes, là-bas, ils sont super vénères, et encore plus à Bogota, dans la capitale. Et je pense que c'est là-bas aussi que j'ai rencontré plein de femmes qui ont partagé leur vécu avec moi, et c'est ça aussi qui m'a fait me dire « ah ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai envie de lutter ».
Et moi c'est Hanen, j'ai 21 ans et avant je m'intéressais pas forcément au féminisme parce que je me sentais pas forcément concernée et tout par les luttes féministes et c'est en 2019 où je suis rentrée au CLEPT où j'ai commencé à rencontrer des gens et avec mon petit groupe de potes on s'est vachement intéressé au féminisme et à plein d'autres sujets.
Et juste tu peux nous dire c'est quoi le CLEPT pour moi par exemple qui ne connaît pas et peut-être d'autres personnes qui nous écoutent.
Alors le CLEPT c'est le collège lycée élitaire pour tous, c'est un établissement qui accueille les décrocheurs et les décrocheuses scolaires et qui leur permet en fait de se raccrocher à l'école et de passer le bac aussi. Et c'est là-bas que j'ai passé mon bac. Et c'est là-bas que j'ai rencontré des personnes incroyables, mes potes et aussi les profs, parce que le concept du CLEPT, il est hyper politique. Enfin, c'est quand même pas mal. Et c'est là-bas que je me suis politisée et tout, et où j'ai commencé à me poser des questions, et où je me suis vraiment intéressée au féminisme, et où j'ai vu qu'il n'était pas que blanc. Et je crois que c'était important, ça, dans ma découverte du féminisme et de ma propre personne, genre...
Ok, cool, une autre personne.
Moi, c'est Elliot et j'ai 22 ans, je suis un peu plus vieux que Dégenré.
Mais on t'a accepté quand même dans l'émission.
Ça va, merci. J'ai eu une mère toujours un peu féministe, pas radicale, mais toujours un peu, notamment due à une situation familiale délicate. Et du coup, ça a toujours été un peu évident pour moi d'être féministe, mais je me suis vraiment radicalisée en 2018 lors de l'occupation de la fac de Grenoble, où j'ai rencontré du coup plein de militants et surtout des militantes qui étaient incroyables. Et du coup, c'est là où je suis vraiment tombée dans le radicalisme du féminisme. Et jusque-là, ça ne s'est jamais arrêté. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais.
Salut, du coup, moi, c'est Clem. Désolée pour la voix, elle est vraiment nulle.
Non, attends, mais... c'est une voix de ta criée en manif, quoi.
Mais du coup, moi, en vrai... j'avais toujours une grande gueule. De ma maman, elle me disait toujours ça, t'as une grande gueule, tu te laisses pas faire et tout. Et notamment, je m'embrouillais tout le temps avec les garçons de mon école. Mais après, vraiment, m'engager dans les luttes féministes, du coup, ça m'est venu avec le temps, à force de... En fait, je me suis confrontée à des trucs, notamment dans le militantisme. En fait, je suis rentrée dans le militantisme lycéen. Il y a eu des trucs qui se sont passés un peu nuls. Enfin, voilà, des mecs, quoi. Et du coup, après, j'ai été un peu forcée de rentrer dans les luttes féminisme parce que j'avais pas le choix si je voulais me faire une place dans le militantisme. Enfin, si je voulais trouver ma place dans le militantisme. Voilà.
Ok, et merci pour ce premier tour de présentation et on va pouvoir rentrer dans les détails plus après. On s'est dit en préparant ce plateau, spéciale dédicace d'ailleurs à Marina sur cette grande organisation et nous avoir fait nous rencontrer. Et on s'est rencontrés notamment pour la plupart à la manif contre la loi retraite dans le cortège féministe, c'était la manif du 31 janvier. Où j'ai pris un peu de son de slogan. On s'est dit que pour démarrer ce plateau et se mettre dans l'ambiance, on allait écouter l'ambiance, les slogans du cortège féministe à Grenoble, qui... Non, en fait, à Marseille, il est bien aussi. Mais celui de Grenoble m'a quand même particulièrement plu. J'ai ramené des slogans, notamment « Laisse-moi kiffer la vapes à la retraite », qui a eu un gros, gros succès, quoi. Donc, big up Grenoble, et on écoute l'extrait.
s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Il passe des pros, me nade, du jardinage et du bricolage. Des mots croisés, et puis du sport, et aussi du souci en colère. Qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Les machines s'envoient en l'air dans l'église. Qu'elles parlent fort, attendent, nous mettent minables. Retraite, et qu'elles repassent des diplômes. Qu'elles nous fassent des tartes aux pommes. Ou qu'elles plantent le soleil. Si elles ont un peu la flemme, on s'arrêtera pas là. On veut entendre des cris de joie dans les parcs qu'on était. Des hommes calibérés, les cheveux gris au vent. Courant à poids vers le levant. Qu'ils puissent chanter et faire des rondes. Et réfléchir au nouveau monde. La retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
Et c'était donc l'ambiance du cortège féministe à la manif contre la loi retraite, ce qui explique la voix de certaines personnes sur ce plateau. Et c'était monté avec le morceau « La retraite des vulves assassines ». On voulait un peu continuer, alors il y a Marina qui nous a fait une rétrospective en fait de tous les thèmes, en tout cas on a gardé des enregistrements des émissions de Dégenrées depuis 2002, donc ça fait un paquet d'émissions et en les regardant on se demandait un peu comment on parlait de féminisme il y a 20 ans, comment ça a aussi évolué au cours des années, est-ce qu'il y a des thèmes qui ont changé, qui sont abordés de la même manière. Est-ce que vous, en regardant du coup cette liste, il y a des thématiques ou des extraits d'émissions que vous avez écoutés, où ça vous a surpris, frappé, choqué ou désespéré parce que les choses ne changent pas tant que ça. Même si j'ai l'impression que, forcément, il y a des choses qui évoluent. On dit souvent qu'il y a aussi un avant et après MeToo. Voilà un peu qu'est-ce que vous, ça vous a évoqué.
Moi, du coup, j'ai écouté plusieurs émissions. Enfin, j'en ai écouté trois. Mais déjà, juste avec la liste, ça m'a assez choquée que, en fait, vous parliez déjà des sujets dont on parle aujourd'hui, presque tous, j'ai l'impression. Vous en parlez aussi à peu près de la même manière, la même manière dans laquelle on en parlerait aujourd'hui, même s'il y a des différences, mais voilà. Et pour dire que vous étiez aussi radical à l'époque, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui a bougé dans ça. Et par exemple, vous parliez, en 2005 et en 2006, vous faisiez déjà des émissions contre l'islamophobie et contre le racisme beaucoup, et aussi pour l'IVG. Des choses qu'on pourrait encore faire aujourd'hui et qui seraient, le pire c'est que ce seraient des choses qui seraient encore utiles de faire aujourd'hui parce qu'il y a encore les mêmes problèmes et les mêmes questions.
Et pour les autres, ça, ça vous a fait quoi comme réaction? Est-ce qu'il y a des thèmes en particulier qui ont, je sais pas, retenu votre attention ou...
Ouais, moi, ça m'a grave surprise. J'ai écouté une des émissions, ça date de 2004, qui disait « Le féminisme n'est pas une lutte secondaire ». Et en fait, je me suis dit « Bah ouais, c'est toujours de d'autres temps ». Et on essaye d'inscrire aussi le féminisme dans toutes les luttes qu'on rencontre aujourd'hui, que ce soit la lutte contre la réforme des retraites ou l'écologie ou tout ça. Et je me dis qu'en fait, tout est lié et que c'est pas du tout une question, en fait, qui est aujourd'hui priorisée alors que, selon nous, elle devrait l'être, quoi.
C'est marrant parce que justement, ça m'a rappelé qu'en lisant les thèmes, je me disais que l'écologie n'était pas un thème qu'on avait énormément investi et que c'est dommage à plein de niveaux. Je pense peut-être en 20 ans, je ne sais même pas exactement si on en a fait une. On me fait signe à la technique que zéro. Parce que finalement, j'ai un peu honte en... Non, deux, bon, ok, trois, ok, les chiffres, qui dit mieux Mais ça, j'imagine qu'on le ferait autrement maintenant, mais ça m'a posé question aussi en relisant les thèmes. Et est-ce que sinon, il y a, je sais pas, dans la manière aussi de le vocabulaire, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué, surprise
Moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand vous parlez de féminisme, vous dites souvent, notamment, j'ai écouté une émission de 2004, je crois, et vous parlez des squats, et vous dites féministe, pour les femmes et les lesbiennes, ce qui est enfin genre très bien, mais enfin aujourd'hui vraiment il y a cette phrase, enfin ce bout de phrase, ce groupe nominal, je sais pas comment dire, femmes et personnes minorisées de genre qu'on emploie vraiment tout le temps pour notamment pour inclure les personnes trans, et vous le dites vraiment à aucun moment, alors que enfin je suis assez convaincue que vous le pensiez quand même. Mais vous le dites pas. Et pareil, dans beaucoup d'émissions, vous parlez... Enfin, il y a des termes qu'on n'utilise pas de la même manière. Sur, du coup, la même question de la transidentité, vous... Enfin, il y a plein d'émissions dédiées aux luttes transpédéguines, alors que pour moi, ce serait... Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est complètement... Enfin, c'est la même chose. Même si, pour certaines féministes, peut-être, c'est pas la même chose. Mais, et j'ai l'impression que, en tout cas... À Grenoble et dans les collectifs dont on fait partie, c'est vraiment corrélé et ça va vraiment ensemble, notamment parce qu'aussi on est des personnes queer en même temps, c'est peut-être pour ça. Mais...
Ouais, je pense qu'effectivement, enfin moi en tout cas en réécoutant, c'est sûr qu'on emploie le terme femme de manière où on ne le fait plus de la même manière actuellement, vu qu'en fait on continue aussi à faire de la radio. Mais, que j'ai l'impression que c'est quand même un des gros sujets, le transféminisme, les transidentités, où ça a quand même super évolué dans le vocabulaire, mais aussi dans la manière de l'aborder. C'est vrai que je pense qu'on avait aussi une manière qui est faire des liens entre les luttes transpédéguines et féministes, parce que effectivement, c'était pas forcément une évidence, ou de voir un peu comme deux parallèles qui se croisent, mais comme d'autres thématiques de lutte, et que maintenant, je pense qu'il y a une autre manière de le voir qui est... Oui, qui est plus un féminisme queer ou un féminisme transféminisme ou intersectionnel qui n'est pas... Enfin, déjà, on n'employait pas le mot intersectionnel en 2002. Enfin, il y a plein de manières dont on parlait des choses, même si des thèmes peuvent se recouper. En tout cas, je pense que c'est pas la même manière de l'aborder à plein de niveaux, quoi. Vous avez eu un peu d'autres réactions sur le plateau, sur cette liste de thèmes?
Je ne pensais pas qu'on parlait autant des questions anti-racisme et tout. Enfin, je ne sais pas, ça m'a un peu surprise. Genre, vous avez plein de... c'est ce que tu avais dit, mais il y en a plein où c'est à propos du racisme, l'islamophobie. Même, il y en a une, c'est sur la grossophobie. Enfin, je trouve ça grave cool qu'il y ait des émissions comme ça, parce que, honnêtement, avant, je ne connaissais pas. Donc, je suis contente que vous... Depuis les années 2000, du coup, vous faites des trucs aussi bien et engagés, genre...
Ouais. Bien, si je peux, je suis totalement d'accord avec toi. En plus, il y a certains sujets et tout où je me disais que le rapport avec le féminisme, je pensais qu'il avait été fait hyper récemment, et notamment peut-être parce que moi, tout simplement, j'étais pas au courant avant, et en me formant et tout, j'ai appris, et du coup je me suis dit ah mais tiens, il y a ça de nouveau, et en fait c'est pas si nouveau que ça, et il y a déjà des féministes il y a 20 ans qui le disaient. Et du coup, en fait, moi, c'est ce qui m'a surpris en voyant les thèmes, c'est de me dire, mais en fait, ça n'existe pas depuis 5-6 ans, quoi. Ça existe vraiment depuis 20 ans. Et notamment, ouais, tu l'as dit, moi, c'était la grossophobie aussi qui avait été très présente dans moi, mon histoire. Et du coup, genre, voir que le rapport... Enfin, moi-même, j'avais pas forcément fait le lien entre le féminisme et la grossophobie que je subissais. Et du coup, voir le lien, moi, j'étais là en mode, mais en fait, ça existe depuis longtemps, tout ça. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a surpris, moi.
Moi, ça m'a un peu désespérée à des moments d'écouter des trucs et de me dire, encore, quoi, on en parle encore parce que ça existe encore, ça veut dire qu'il y a toujours les mêmes problèmes. Et d'un autre côté, je me dis que c'est trop bien parce que ça montre qu'on est plein, en fait, et qu'on est de plus en plus et qu'on s'intéresse de plus en plus à tout ça. Et que, en fait, peu importe l'âge qu'on a, on est féministe. Et voilà, et du coup, j'ai trouvé ça aussi trop cool de me dire que, ouais, peut-être qu'il y a des trucs qui n'ont pas changé, mais en même temps, il y en a plein d'autres qui ont évolué et on est de plus en plus à se rendre compte de tout ça. Donc, je trouve ça grave chouette.
Ouais, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui change sur le nombre de personnes qui se disent féministes, qui sont concernées, le nombre qu'on est dans des manifs. Enfin, moi, ça me frappe, par exemple, sur des manifs de nuit, des trucs comme ça, où même en 10 ans, en fait, quoi, je veux dire, d'avoir fait des manifs de nuit, on était 33, en fait, on savait exactement. On était là, ouais, c'est déjà pas mal, on est 33. Non, je me rappelle de ça parce qu'on avait croisé un gars qui vous avait dit « Vous êtes seules, les filles ?» Là, on est quand même 30, comment te dire. Mais bon, maintenant, tu fais des manifs de nuit, c'est sûr que c'est pas le même nombre ou qu'il y a plein de choses qui changent. Après, je pense que, oui, on aborde plein de thèmes avec plein de... Enfin, où c'est pas non plus parfait. Ou en fait, moi, quand je réécoute des trucs, il y a des choses où quand même, t'es un peu là, genre, ah oui, on a dit ça, je sais pas si je l'assume complètement. Et je pense aussi plein de choses à améliorer, à changer, et qui sont encore le cas, notamment sur les compositions des groupes. Enfin, je pense que par exemple, sur les questions de racisme dégenré, ça a quand même été une émission majoritairement avec des personnes blanches, et majoritairement avec des personnes cis, avec des moments différents selon l'histoire. Ce n'empêche pas que du coup, il y a des personnes trans, gender fluides, des personnes racisées qui ont participé, mais c'est toujours ces histoires de majorité du groupe aussi qui peuvent jouer sur comment tu abordes des thèmes. Et effectivement, oui, la grossophobie, j'ai l'impression que c'est un peu lié à ce qu'on disait l'histoire ce matin, de être beaucoup aussi dans le personnel et politique et d'inviter à partir là-dessus, ce qui, j'ai l'impression, nous a fait partir pas mal sur des émissions sur le rapport au corps, quoi, notamment sur les poils, sur d'autres choses, tout ça. Et par rapport à l'IVG, vous avez justement, vu que c'est vous qui avez fait les sélections, sélectionné un extrait d'émission sur l'IVG qu'on va écouter maintenant.
Et alors ce samedi 15 janvier, je fais une transition pas très fine, mais voilà, il y avait aussi une manifestation à Grenoble qui, au début en fait, elle devait avoir lieu le 22 parce que, enfin, pour pas interférer en même temps que celle de Paris et tout. Et en fait, il se trouvait que il y avait un rassemblement de personnes pro-vie ou je préfère dire anti-IVG parce que pro-vie, à un moment donné, ça veut rien dire pour moi, qui appelait à se rassembler pour prier à place Félix Poula. Et donc il y a eu un contre-rassemblement et qui a rassemblé à peu près 200 personnes. Il y a aussi, enfin, ces personnes, c'était assez diversifié, je sais pas, quand même beaucoup de femmes, heureusement, mais des âges différents, des origines sociales différentes. Enfin, vraiment, c'était assez chouette. Et il y a eu pas mal de slogans rigolos, des chansons, beaucoup de chansons détournées et tout. Et donc, en fait, c'était, je sais plus, les anti-IVG, ils étaient quand même moins nombreux.
Ils devaient être au plus 30.
Donc c'était un extrait d'une émission, j'ai plus l'année, d'une manif anti-IVG. Et ça vous avait fait aussi rebondir par rapport à vous, des luttes sur lesquelles vous êtes retrouvés. Parce que bon, on va dire sur les invitations, c'était pas complètement par hasard. C'est aussi parce que vous êtes un crew qui militait ensemble, participait du coup... voilà, différents mouvements. Et pourquoi particulièrement ce choix par rapport aux questions de l'IVG ?
Du coup, c'est moi qui ai sélectionné cet extrait. Et c'était sur l'émission de 2005 sur IVG, la lutte continue, du 9 février 2005. J'ai choisi cet extrait parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a... Du coup, on fait partie de l'AG féministe et qu'on a organisé avec cet AG en janvier. Et du coup, pour des rassemblements contre un truc qui était contre l'IVG, pardon. et du coup, d'un côté, écouter cette émission, ça m'a attristée parce que je me suis dit, en fait, on doit faire encore, c'est toujours la même chose. On parle de l'IVG de la même manière. Et d'un autre côté, ça donne de la force. Et cet extrait m'a parlé parce que, je me répète un peu, m'a parlé parce que du coup, on faisait là exactement la même chose que les féministes à l'époque, d'organiser des rassemblements contre les personnes contre l'IVG.
Cet extrait m'a aussi parlé parce que, bon, on se connaissait pas encore à l'époque, on a vérifié la date, mais en septembre 28, on avait fait, avec l'Assemblée Générale Féministe, on avait organisé une manifestation pour le droit à l'avortement, et on s'était retrouvés dans les rues de Grenoble à devoir tracter en disant « Venez pour le droit à l'avortement ». Et en fait, c'était trop bizarre, on était là en mode « Mais attends, on l'a pas déjà ?» Enfin, en fait, on était là en mode « Mais qu'est-ce qu'on fout là ?» Parce que, bah, on est obligé d'en revenir là, parce qu'il y a eu des lois qui ont été faites, il y a eu des discours insoutenables qui avaient été dits aux radios et tout, et nous, on était obligé de réaffirmer ce droit en mode « N'oubliez pas qu'on est toujours là, qu'on en a toujours besoin ». Et du coup, bah, voir en 2005, et bah là, en 2023, en 2022, du coup, on avait encore refait une manifestation pour le droit à l'IVG. Et voilà quoi, c'est...
Moi, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de me dire que à la fin de l'extrait, on entend qu'ils étaient que 30. Et de me dire qu'en fait, à Grenoble, j'ai vraiment l'impression que dès qu'il y a un événement un peu contre l'IVG et un événement un peu de droitard au final, il y a toujours les militants s'organisent toujours contre et ils peuvent... entre guillemets, ils ne peuvent jamais être tranquilles. On avait organisé aussi, je crois qu'il y a 2 ans, il y avait une grosse manif contre la manif pour tous. Et c'est un peu pour ça aussi que j'aime beaucoup Grenoble. C'est parce qu'il n'y a pas de... Les personnes qu'on n'aime pas, parce qu'ils sont de droite, ne peuvent pas s'organiser hyper facilement. Il y a toujours des répercussions contre eux. Et c'est ça, je trouve ça chouette.
Ouais, qu'il y a des réactions et du coup de pas se sentir tranquille, d'aller dans la rue, de dispenser leurs idées. Bon, c'est toujours ce truc que les manifs, c'est un peu la partie visible de l'iceberg et qu'après, c'est un peu un des trucs dont vous parliez aussi, il y a tout ce qui se passe plus au niveau loi, au niveau lobbying, etc. Mais que, en tout cas, le fait d'avoir des réactions et de le montrer sur l'espace public, ça fait aussi qu'ils se sentent pas à l'aise. Pour sortir leur discours de merde, quoi. D'autres réactions sur cet extrait ? Vous voulez qu'on passe à autre chose ? Ouais.
Bah, en vrai, mais ça, c'était un truc qu'on avait entendu pendant les sessions de tractage qui étaient beaucoup revenues, du coup, justement, pour la manif du 28 septembre, où on nous... Vous savez, quand on tractait des mecs, c'était ultra tabou leur parler d'IVG. Genre, ils étaient là en mode tout gêné, tout la sueur. Et quand on tractait des meufs, elles étaient là en mode, bon, bah, soit on n'en a pas besoin, soit, bah, ouais, on l'a déjà et tout. Et en fait, t'avais ce truc qui était très déconnecté de, bah, c'est toujours même un droit qu'on pourrait perdre et qu'on remet beaucoup en question. Et que parfois, bah, il y a ce truc justement de tabou autour qui fait que tout le monde est là en mode... On veut pas en parler, chacun fait ce truc de son côté en se disant mais non, d'autres feront. Et ouais, il y a toujours ce tabou autour de l'IVG. Ou même, moi c'était l'expérience de ma mère qui me disait mais en fait, moi jamais j'en ai parlé à ton père quand j'avortais parce que du coup, lui voulait pas le savoir, voulait pas en entendre parler, voulait pas. Et il y a toujours ce truc vraiment de tabou autour de ça, alors que c'est quelque chose que justement... Les jeunes, notamment, on a besoin d'en entendre parler, on a besoin de savoir comment ça fonctionne, on a besoin d'être soutenu dans ces genres de moments. On a juste besoin de savoir qu'il y a des instances aussi qui peuvent nous soutenir, des organisations, des personnes. Et même encore aujourd'hui, ça, c'est pas encore clair et précis, et notamment aussi dans l'éducation où on n'en parle presque pas.
Ouais, qui a un problème aussi sur le manque de réelle intervention alors que c'est censé être obligatoire au lycée.
d'avoir des interves là-dessus, ce qui permettrait, parce que oui, c'est pas pareil de se dire oui, bon bah c'est un droit, on l'a, que de le rendre réellement accessible, ou de pas en faire quelque chose de tabou, ou qu'il y ait forcément quelque chose de traumatique, d'horrible et plus... En fait, moins on en parle, plus ça met un espèce de poids, voilà, qui fait que, bah, quelque part, là, j'imagine, le tractage, ça faisait aussi peut-être une occasion d'en parler autre vous, ou aussi, c'est intéressant, je trouve, de voir les réactions des gens. Et par rapport aux lois, et un peu des évolutions, où des fois, en fait, justement, on se rend compte que... Dans l'histoire aussi du féminisme, des fois, en fait, il y a des... Comme dans n'importe quelle lutte, en fait, il y a des choses qu'on acquiert, il y a des victoires qu'on a, et après, des retours de bâton. Et voire des aggravations, que les choses vont pas forcément dans le mieux. Une des questions, c'est justement les questions d'islamophobie et de racisme. On peut pas dire qu'il y ait une amélioration du tout, mais plutôt qu'il y a des discours... Enfin, que c'est une histoire, et une histoire liée au colonialisme français, en tout cas pour la France, qui est une histoire ancienne, mais avec plutôt des aggravations de discours islamophobes décomplexés. Et là, on va écouter un extrait d'émission qui date de 2006, et qui est sur la répercussion de la loi qui interdit donc le port du voile du hijab à l'école.
Alors, par rapport à ce que tu racontes, Bouchra, sur ces questions de est-ce que t'as un nouveau copain qui t'impose le voile, ou ton père ou ton frère ou tout ça, en fait, et ben c'est un des arguments qui est beaucoup beaucoup revenu dans les débats, c'était derrière il y avait les méchants islamistes et tout, et les filles elles étaient que des victimes, et ça ne pouvait pas être un choix. Et alors, par rapport à ça, moi j'ai vraiment halluciné quand j'ai lu qu'il y a eu des cas où, en fait, le chef d'établissement, il a appelé les parents pour leur demander de contraindre la fille à enlever le voile. Et dans un autre cas, il a convoqué le frère aîné d'une élève afin de lui demander de la contraindre à enlever le voile, ce qu'il a refusé, le frère, heureusement. Moi je trouve ça hallucinant, c'est exactement l'inverse de mettre des pressions, d'essayer de justement de se servir de soi-disant structure hiérarchique de domination comme ça, en fait, pour la contraindre à enlever son voile, alors que avant on avait mis en avant que c'était bien, pour ça que on créait cette loi, pour protéger les filles, en fait, de leur méchant grand frère, de leur méchant père, enfin je sais pas. Et moi ça m'a vraiment fait halluciner, en fait, quand j'ai lu ça.
Y a des fois, on m'a même culpabilisé par rapport, on m'a dit, t'as pas honte de porter le voile, alors qu'il y a des femmes en Irak, elles sont forcées à porter le voile. Et ici, on est dans un pays de liberté, t'as le choix de ne pas porter le voile. Donc, comme si je devais enlever mon voile pour alléger la conscience de certaines militantes non pratiquantes, parce que moi je suis pratiquante, et peut-être, même si elle habite en Irak, elle n'est pas forcément pratiquante, c'est leur culture.
Et juste, peut-être mais je crois que Mélanie, tu avais aussi quelque chose à dire là-dessus, mais juste, Bouchra, je voulais bien que tu précises, tu disais que toi aussi on avait essayé d'appeler ta mère pour qu'elle intervienne avec toi, ou...
En fait j'ai emmené ma mère, et au cours de l'entretien on lui a dit est-ce que vous croyez vraiment que votre fille, elle va trouver un boulot? Elle a même pas trouvé un stage. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Comment elle va faire pour trouver un boulot? Et ma mère, en fait, suite à cet entretien, elle a culpabilisé. Elle a essayé de me faire changer d'avis parce qu'elle avait peur que je puisse pas travailler, parce qu'on lui a dit t'es voilée, maintenant t'es soumise, tu restes à la maison, en gros, tu fais le ménage et du couscous, c'est tout.
Alors, c'était donc un extrait de 2006 où on avait notamment invité des lycéennes directement concernées par cette loi. Et j'ai l'impression qu'une des choses qui vous a choqué à la réécoute, c'était sur comment les arguments avaient peu changé des islamophobes, en fait, ou des arguments sur cette question du port du voile.
Déjà, ça m'énerve.
C'est juste, enfin, là, elle parle de l'Irak, et là, il n'y a pas longtemps, on avait eu le même... on nous ressort à chaque fois les mêmes arguments. Vous portez le foulard en France, vous avez le droit de porter le foulard, et là, c'était avec l'Iran, ce qui s'était passé. Oui, en Iran, il y en a qui sont forcés de porter le foulard et tout ça. Enfin, même quand il y avait des femmes qui brûlaient leur foulard, on disait « Oh, regardez, vous voyez, l'islam, c'est mauvais et tout, parce que, justement, les femmes, elles brûlent leur foulard, alors que pas du tout, c'était symbolique, c'était brûler le gouvernement qui oppresse ces femmes-là. » Et en fait, juste, ça me saoule, parce que en 20 ans, là, c'est ce qu'on disait, enfin, il n'y a rien qui change. Et en 20 ans, c'est toujours les mêmes arguments qu'on nous ressort, que les femmes musulmanes qui portent le foulard, elles sont soumises, là... la personne en parle, elles sont soumises à leurs grands frères qui les obligent ou des trucs comme ça, des trucs hyper bateaux qui sont même pas crédibles et on nous les ressort encore et juste ça me saoule. Mais
ouais. Ouais, c'est sûr que sur des fois les régressions ou le peu de changement c'est clair, il y a moyen d'être en colère et j'ai l'impression que une des choses qui aide, c'est aussi de se regrouper et de lutter. Et toi, j'ai l'impression, du coup, tu fais partie notamment du syndicat des femmes musulmanes. Est-ce que tu as un peu envie de nous présenter du coup ce que ça représente aussi pour toi ou les actions, mais plus un point de vue personnel aussi
Et déjà, j'ai rejoint le syndicat il n'y a pas si longtemps, vers novembre. Et juste, je suis contente d'avoir trouvé des personnes avec qui je peux m'organiser et pas juste être seule dans mon coin et tout. Et aussi, comme j'ai commencé à me politiser beaucoup plus cette année, à rentrer dans le milieu militant, je suis contente d'avoir trouvé des personnes qui me ressemblent. Enfin, même si je porte pas le foulard, enfin, je suis bien. Et il me manquait ça parce que le milieu militant, il est super blanc. Désolée, mais...
mais c'est un fait, ouais.
Du coup, je suis contente d'être avec ces personnes-là. Et là, on ne fait pas forcément d'action parce qu'avec tout ce qui s'était passé l'année dernière, avec les actions piscine et tout, faut que le syndicat il reprenne du poil de la bête. Mais c'est horrible comme expression. Non, je suis très contente et c'est super important de se regrouper en fait et de sentir qu'on n'est pas seul.
Et c'est aussi à ça que ça sert la non-mixité. Genre, les gens comprennent pas, mais en fait, ça sert juste à ça, à se regrouper entre personnes ou qui partagent les mêmes problèmes ou les mêmes envies ou des choses comme ça. Enfin, simplement.
Ça, c'est un avantage qu'on a dans les milieux de nous qu'on fréquente, c'est que maintenant, on se pose plus la question de est-ce qu'on fait en non-mixité ou non, mais on se pose la question de quelle non-mixité. Et ça, c'est important parce que si du coup, on essaie de varier les non-mixités, et du coup, ça permet justement aux personnes qui pourraient se sentir exclues d'essayer de s'organiser entre elles pour lutter contre ça. Malheureusement, je sais que nous, ça a été beaucoup reproché à l'Assemblée Générale Féministe. On reste très, très, très grandement majoritairement blancs et blanches. Et du coup, c'est très difficile. Et j'entends du coup ce que tu dis vraiment, c'est facile de se sentir seule à l'Assemblée Générale Féministe avec ça. Et du coup, dans les autres milieux également, militants plus généralement.
Mais c'est pour ça que la question du féminisme, quand on n'est pas blanc ou blanche, elle est hyper compliquée. Quand tu ne te sens pas concernée par une lutte, c'est hyper compliqué. Et surtout dans les milieux militants où du coup, tu ne vois pas de personnes qui te ressemblent, c'est grave compliqué de t'accrocher et de t'investir dans des trucs où tu es seule en fait. Et... c'est pour ça que c'est super important de s'organiser entre personnes qui nous ressemblent. même à l'AG, c'est cool et tout ce qui se passe. Même là, je me sens super bien parce que c'est... c'est le féminisme, quoi. Mais il faut que ça se diversifie parce que c'est pas ouf. C'est avec les personnes racisées et les personnes qui sont les premières concernées qu'on peut vraiment faire avancer les choses, quoi.
Ouais, c'est aussi est-ce qu'on a l'impression que nous, les thématiques, justement, les luttes qui nous touchent, ce qui nous oppresse au quotidien, c'est pris en compte? Est-ce que c'est vraiment à l'agenda féministe? Est-ce que c'est à l'agenda des luttes ou pas? Et que de créer d'autres collectifs, ça peut permettre
faire aussi des rapports de force pour le mettre en avant. Et moi, j'avais juste une question peut-être pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les actions piscine?
Alors, j'étais pas au syndicat, mais, du coup, les actions piscine, c'était l'année dernière, où en fait, il y a eu des actions pour que les femmes qui portent le foulard aient pu aller se baigner.
Avec le foulard.
Les maillots, les maillots couvrants. Et donc, il y a des femmes du syndicat qui sont allées dans les piscines et qui sont allées se baigner. et après... ouais, voilà. après, il y a eu tout un truc avec Éric Piolle qui voulait pas. Enfin, au début, il voulait pas. Après, il voulait. Parce que
rapport de force.
Ouais. Ça a marché, mais pas trop, du coup, parce que au final, ça a été accepté, mais... Il joue sur les mots, genre tu peux aller te baigner, mais pas totalement. Enfin, c'est un peu space quand même.
Oui, ils l'ont comme contourné. J'avais lu en parlant que tu pouvais y aller avec des vêtements couvrants, comme par exemple des tenues de plongée pour les personnes qui s'entraînent à la plongée en piscine. Bref, des fois, c'est des manières autres de le faire. Et aussi, ça fait quand même un espèce d'énorme scandale. Notamment, par exemple, à la piscine de Rennes, ils l'ont fait aussi passer d'une autre manière, ce qui a fait moins scandale et qui fait que tu peux aller en maillot couvrant. Mais c'est toujours cette espèce de moment où les islamophobes s'en sortent de tous les côtés, qu'on voit aussi que cette question du racisme et de l'islamophobie traverse tous les partis, même si c'est pas exactement la même manière peut-être de l'exprimer, mais de la société en général et les différents partis politiques. Est-ce que vous avez envie de revenir aussi un peu encore là-dessus ou d'écouter un autre extrait?
Ouais, moi, je voulais juste, puisqu'on parle de l'histoire de Dégenré, dire que l'an dernier, on a invité le syndicat des femmes musulmanes à Dégenré pour nous raconter leur lutte. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter. C'était quelle date, alors? Hâte de vous y retrouver.
Le 7 janvier 2022.
Voilà, donc n'hésitez pas à les retrouver sur radiorageuse.net si vous voulez l'écouter. Elle est super.
Moi, j'avais un truc à rajouter sur le truc du foulard et les piscines. Je crois que le truc s'était passé quand ils ont essayé de faire passer justement ce truc d'autoriser les femmes qui voulaient y aller avec les maillots couvrants. Ils ont autorisé ça en même temps que l'autorisation d'aller se baigner les seins nus. Je crois que c'était ça. Et ce qui était un peu drôle, c'est que sur Internet, notamment, il y a eu plein de réacs qui ont réagi en mode de, il faudrait choisir, soit il va couvert, soit il va les seins nus, on ne peut pas autoriser les deux et tout. Et je trouve que c'est ça que les gens ne comprennent pas déjà dans ce truc, et majoritairement dans ce truc de porter le foulard ou pas, en mode de, mais là-bas, elle les oblige, alors pourquoi toi, tu n'es pas solidaire et tu ne portes pas le foulard? En fait, la question, ce n'est pas au final de porter ou pas le foulard et d'être obligé ou pas de porter le foulard. La question, c'est juste de faire ce qu'on veut de pouvoir faire ce qu'on veut. Et c'est ça. Voilà, pardon, je passe.
Mais ouais, en fait, c'est toujours ça le truc, c'est qu'ils ont toujours des trucs à dire sur comment... comment les femmes doivent s'habiller, comment ça, et juste laisser genre le choix, et même sur ce truc de vous êtes pas solidaire ou vous êtes soit musulmane soit vous êtes féministe, ça a pas de sens, ou genre vous pouvez pas être féministe et musulmane alors que mais
en plus ça pouvait se voir le 16 mars, le 16 mai, le jour où il y a eu le conseil municipal, où dans la salle où on était tous réunis pour écouter le conseil, t'avais des personnes qui soutenaient le topless à fond, t'avais des personnes musulmanes voilées, t'avais des non-voilées, t'avais une diversité, et on était toutes là en mode, mais en fait, arrêtez de vouloir nous mettre dans des trucs séparés, parce que nous, là, on est tous dans la même pièce, on veut tous la même chose, on veut tous que ça se soit accepté. Et après, t'avais des conseillers municipaux qui racontaient mais n'importe quoi, genre des trucs je voudrais que mon fils il voie des seins, cacher ses seins que je ne saurais voir. Il y en a un qui a dit, c'était des trucs... Ou après, c'était... les voiles, après, il y en a qui vont... Tout le monde va vouloir emporter. Toi, t'étais là en mode, mais ça n'a aucun rapport. Genre, elles veulent juste aller se baigner, là. Genre, c'est tout ce qu'elles veulent. On est en pleine canicule, elles veulent se baigner. C'est tout.
Oui, mais c'est quand même ces lois où, soi-disant, pour des questions il faudrait les émanciper, etc. Donc, on va interdire d'aller... on va faire de peut-être priver des personnes d'aller à l'école ou d'aller à la piscine. Du coup, on voit pas trop le rapport avec l'émancipation. Et après, je trouve bah, le fil aussi avec les lois anti-IVG, ce qu'on va continuer, c'est quand même cette histoire du droit à disposer de nos corps, nos vies, nos choix qui nous appartiennent, et d'arrêter de faire des lois dessus et de décider qu'est-ce qu'on a le droit de porter, et qu'est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a le droit d'avorter, est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants, parce qu'on parlait aussi, on n'aura pas le temps de parler de tout, parce qu'il faudrait, mais surtout vous allez revenir à dégenrer. On parlait aussi de... du coup, la loi sur la PMA et comment les personnes trans avaient été exclues de cette loi, donc de la possibilité d'avoir des enfants, c'est vraiment le fait de légiférer sur nos corps. Et sur cette histoire de nos corps nous appartiennent, sans transition, nous allons écouter des morceaux sur la masturbation.
Mais ce truc de vraiment, mais vraiment culpabiliser, la culpabilité à fond de se donner du plaisir, quoi, genre c'est pas possible. Et ça, je pense que ça continue encore vachement, de, parce qu'on n'en parle pas et que ça reste quand même vachement un tabou que... Ben, que les gamines, entre guillemets, aujourd'hui, c'est pareil, je suis sûre que ce ressenti de se dire que c'est mal ce qu'on fait, il existe encore et vraiment j'aimerais trop l'abolir pour dire allez-y quoi.
Mais je connais très peu de gens dont leurs parents leur en ont parlé. Ben, moi je trouve ça hyper déplorable, cette espèce de réflexe qu'ont les parents de dire dès qu'un gamin il se gratte le sexe, touche pas ton sexe, ou de leur taper sur les mains, ou. Tout un truc comme ça, enfin, ouais, ça me fait halluciner.
Alors, c'était donc des extraits de cette émission Les filles se masturbent aussi de 2005. Par exemple, peut-être on l'appellerait pas juste Les filles se masturbent aussi actuellement, on ferait un truc plus inclusif. En tout cas, on se demandait si dans le rapport à la sexualité, est-ce que ça avait changé dans la réflexion féministe? Est-ce que, par exemple, le sujet de la masturbation est moins tabou? Moi, je me rappelle quand j'en parlais avec mes potes, peut-être moins au lycée, parce qu'on a commencé à devenir féministe, mais quand même, oui, peut-être au début, au collège, c'était « ah non ». Enfin, je veux dire, une espèce de réponse évidente était « ah non, je ne me sens pas concernée par la question », ce qui n'était pas du tout la même chose pour les gars cis, quoi. Où c'est très présent. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé sur ce sujet ou de la sexualité en général?
Ouais, moi, en écoutant cet extrait, je me suis dit que j'avais parfois parlé de sexe avec mes parents, mais en fait, jamais de masturbation. Et avec mes copines, j'ai commencé à en parler, je pense, au collège. Mais en fait, on le disait pas trop aux garçons, parce que sinon, on se faisait moquer. Et je suis surprise aussi, parce que je pensais vraiment qu'on parlait moins, peut-être, de tout ça avant. Et en fait, non. Par contre, je me dis que la culpabilité de se masturber, elle existe toujours, en fait. Et moi, au début, quand je me masturbais, je pensais que j'étais toute seule et je pouvais en parler à personne. Et je me disais... au début, c'était hyper... Il y avait plein de tabous autour de ça. Et je me disais, en fait, peut-être que je suis seule. Enfin, j'en sais rien, quoi. Et une fois que j'ai commencé un peu à me dire qu'en fait, c'était normal, que si les garçons, ils en parlaient tout le temps, peut-être que les filles, elles pouvaient le faire aussi et tout. J'avais juste envie de dire à mes copines, en fait, allez-y, essayez, quoi. C'est trop cool. Sauf que je le faisais pas trop, parce que je savais pas, moi, si mes copines, elles se masturbaient ou pas, et même les garçons, en fait, on savait que les garçons, ils se masturbaient. Moi, je me disais bien que mon père, il devait se masturber, mais avec ma mère, j'en avais jamais parlé, et je m'étais jamais dit, peut-être qu'en fait, ma mère aussi, elle se masturbe, et elle connaît ce truc génial, quoi. Mais ouais, voilà, et puis un peu plus, dans les extraits, après, il y a une des filles qui explique que la masturbation, pareil, c'est toujours rallié au sexe masculin, etc., et qu'il faut toujours qu'il y ait pénétration, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que j'ai commencé à me masturber, alors qu'en fait, y a plein d'autres façons de se masturber, et que le plaisir qui n'est pas interne non plus est trop cool aussi, mais vu que c'est un plaisir que tu peux te donner toi-même ou que quelqu'un d'autre peut te donner, mais que c'est pas rattaché, en fait, au sexe masculin, c'est comme si, en fait, on ne pouvait pas te le donner autrement que par une pénétration, alors que c'est totalement faux, quoi.
Moi, j'ai l'impression que par rapport... en comparaison d'il y a 20 ans, et notamment grâce aux réseaux sociaux, on a beaucoup, eu beaucoup plus accès à l'information de comment, du plaisir féminin. En tout cas, moi, sur mon lycée, vraiment, c'était quelque chose où on s'informait... Enfin, on pouvait s'informer dessus facilement. Et on en parlait entre nous aussi un peu avec des mecs, et Et les mecs aussi commençaient à se dire que peut-être, éventuellement, il n'y avait pas que... Bon, c'est pas encore ça, hein, mais qu'il n'y avait pas que la pénétration. Et je pense que ça, ça a changé. Et en préparant l'émission aussi, on s'est dit qu'il y avait un peu... Bon, ce que je veux dire, ça vaut pas pour tout le monde, mais moi, j'ai eu l'impression que... Donc, dans mon milieu un peu féministe, avec mes potes un peu féministes au lycée, il y a une libération de la parole, enfin, autour de la sexualité féminine notamment. Et on en parlait, et on en parlait, et on en parlait, et on parlait que de ça. Et ce qui était bien, mais. Et j'ai l'impression qu'il y a eu. On est revenu dessus un peu. Et en tout cas, moi, personnellement, dans mon chemin de vie personnel, où je suis revenue un peu dessus, et je me dis, en fait, c'est trop bien de libérer la parole sur la sexualité, etc. Mais moi, j'en ai un peu ma claque, et j'en ai marre. Et j'ai aussi envie qu'on revienne sur le fait que, en fait, y a le sexe, c'est pas obligatoire, et c'est pas forcément trop bien. Parce que du coup, j'ai eu l'impression que ces 20 dernières années, il y a eu ce mouvement de dire, ah, le sexe, c'est trop cool, aussi pour les meufs. Et c'est bien qu'il y ait eu ça. Mais du coup... j'ai l'impression que dans les milieux féministes, il y a eu aussi ce truc de dire en fait ça peut être trop bien, mais aussi c'est pas obligatoire et c'est pas obligé. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu l'évolution qu'il y a. C'est une impression, peut-être c'est pas vrai.
Oui, qu'il y a aussi plus de discours sur la pression à la sexualité et le choix de la sexualité, de ne pas en avoir. Et je trouve que c'est des questions compliquées parce que tout à l'heure ça vous est marré quand je racontais. Non, mais parce que effectivement il y a pas les mêmes accès juste à du contenu sexuel, à du contenu porno que il y a 20 ans. Moi je disais quand j'étais ado, franchement, bah, je veux dire, il y avait pas internet, le truc qui existait c'était le film érotique du dimanche soir sur M6 où je me rappelle peut-être à 13 ans de passer dans le salon et mon frangin est en train de le regarder avec ses potes et je suis hyper mal à l'aise. Mais c'est qu'il y a des accès super différents et avec plein de trucs hyper positifs. Notamment, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de représentations aussi de sexualité diverse, de sexualité notamment queer, transpédéguine, etc. Mais avec aussi plein de, je sais pas, de martelage de qu'est-ce que doit être la sexualité, de pression, en fait, faut un peu tout réussir et pour... en fait, être au top, il faut avoir des orgasmes, avoir un boulot, s'occuper de ça. Enfin, c'est comment, en fait, à un moment, ça se transforme de quelque chose qui est libération du plaisir à aussi de la pression et de la performance et aussi de qu'est-ce qu'une sexualité épanouie. Enfin, ça mélange un peu les deux, quoi.
Mais ouais, moi, je pense qu'on y a grave plus accès et des fois, ça me fait peur. Enfin, moi, je me rappelle la première fois que j'ai regardé du porno. Je sais même plus quel âge j'avais, mais je devais être au collège. Et en fait, après, j'en ai fait des cauchemars pendant 3 mois parce que ça m'avait traumatisée. Vraiment, j'étais choquée de ce que j'avais vu parce que je me disais, moi, on m'a raconté le sexe toute ma vie et je pensais pas que ça ressemblait à ça, quoi. C'était horrible. Et du coup, après, j'ai plus regardé de porno pendant super longtemps. Et quand j'ai commencé à en re-regarder, déjà, c'était du porno queer, du coup, pas du porno hétérosexuel. Et je me suis dit qu'il y avait une petite différence, mais que c'était toujours autant surjoué. Mais je me rends compte aussi, j'en parlais avec un pote la dernière fois, et je me dis, même dans le porno lesbien, en fait, souvent, ou alors je vais sur des sites de merde, j'en sais rien, mais souvent, il y a un homme qui apparaît comme ça, par hasard, on sait pas trop, comme si sans un homme, les femmes ne pouvaient pas jouir. Et ouais, je me dis que l'accès, il a beaucoup évolué, et à la fois, du coup, ça veut dire que vraiment, tout le monde peut le faire, et on met des téléphones dans la main des gosses de plus en plus tôt, et je me dis... moi, je pense qu'au collège, j'aurais pas aimé tomber sur cette vidéo porno qui m'avait fait des cauchemars pendant 3 mois, quoi.
Ouais, effectivement, parce qu'il peut y avoir des contenus aussi... la majorité des contenus sont aussi sur des trucs hyper violents et c'est difficile d'avoir accès à d'autres contenus. Alors, cette émission, le temps file très très vite. Je me rends compte que, par exemple, une petite pause musicale serait bienvenue. Du coup, vous aviez choisi un des morceaux. Est-ce que vous voulez le présenter?
Oui, c'est Flowers de Miley Cyrus. Qui est sorti il y a pas longtemps. Il faut expliquer pourquoi on l'a choisi.
Alors il ne faut rien, c'est comme on veut. Sinon on peut juste faire le lien avec l'autonomie. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie.
De retour sur le plateau, avoir 20 ans comme dégenré sur le 90.8. Et vous aviez un peu envie de nous dire ce que vous aimez dans ce morceau.
Oui, en fait c'est un morceau qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a été écrit et chanté par Miley Cyrus, qui est un peu une icône, un peu de la pop de notre génération, qui jouait notamment Anna Montana sur Disney. C'est un peu comme ça qu'elle s'est fait connaître. Et en fait elle sortait, enfin même je crois qu'ils étaient mariés, mais ou en... ou fiancé en tout cas avec un type et pendant hyper longtemps et elle est devenue un peu de plus en plus extravagante, ce que moi je enfin c'est un peu, pour moi c'est un peu une icône aussi du féminisme, bon à discuter hein, mais bon, voilà. Et et du coup elle a écrit cette chanson en disant que elle peut s'acheter des fleurs elle-même en réponse à, enfin elle peut s'acheter des fleurs elle-même et qu'elle peut se parler elle-même pendant des heures et qu'elle peut aller danser seule sans lui, parce qu'il a, il lui avait fait beaucoup de remarques un peu en public en disant qu'elle devait se calmer et arrêter d'être d'être aussi extravagante qu'elle était, quoi. Voilà, pour faire rapide.
Et t'avais aussi envie de revenir sur cette question du contenu porno.
Ouais, vite fait rebondir sur la diversité et tout des contenus maintenant. Et surtout, comme on avait parlé de la grossophobie juste avant, je trouve qu'il y a un peu plus d'inclusion des corps gros et tout ça dans le porno, même si il n'y en a pas de ouf, et encore moins dans le porno lesbien. Mais déjà, je trouve que c'est quand même un grand pas et c'est super important de se sentir représenté. Et parce que, enfin, souvent, désolée, ça va être rapide, mais que, enfin, que les personnes qui sont grosses, elles ont pas le droit à la sexualité et tout, et enfin, du coup, surtout avec les réseaux sociaux et tout ça, et comme on a accès à plus de contenu, je trouve que c'est important que les gens se rendent compte que, du coup, les personnes grosses peuvent aussi avoir droit. C'était long, pardon.
Non, c'était carrément. C'est ouais, cette question de représentation, et ça donnerait envie de pouvoir développer chaque thème beaucoup plus qu'on a préparé. On avait plus de thématiques qu'on avait retenues. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec l'outil radio, en tout cas, moi, ça me fait ça, c'est que c'est un outil dont c'est aussi relativement simple de s'emparer, plus que la vidéo aussi au niveau financier, de trouver, d'avoir un enregistreur à se partager, de faire du montage et... J'espère que ça va donner lieu à d'autres, voilà, des envies radio. Et pour finir sur ce plateau, peut-être ça serait chouette de parler un peu des projets de l'AG Féministe.
Ok, je commence. Ouais, parce que les prochaines semaines sont très très chargées. Du coup, on s'en sert tout regardant en mode, on commence par quoi ? Moi, je pense qu'on peut parler directement du forum féministe que nous, on organise en tant que féministes étudiantes. Du coup, le 28... là qui arrive, on va organiser un forum sur le campus, bah, ici même à Ève en fait, qui va durer de 11h à 16h30. Et le but, ça va être de présenter des associations et des organisations féministes, notamment celles qui sont présentes à l'Assemblée Générale Féministe, et de faire le lien entre la grève générale féministe et les étudiantes, parce que du coup, les étudiantes n'ont pas forcément conscience que ce qu'elles font, c'est du travail, même s'il n'est pas rémunéré, et que elles ont... Elles peuvent faire grève également de plein de façons différentes. Et du coup, on aimerait bien apporter cette question-là de la grève féministe étudiante. Je ne sais pas si pour le reste du planning, vous voulez.
Bah, on est aussi en train de, quand même, de préparer le 8 mars avec l'AG. On se bat pour faire une super manif, mais on aimerait aussi organiser toute une semaine comme on avait fait pour le 25 novembre. Essayer de faire plein de trucs tout au long de la semaine et surtout ouais, de montrer aux gens qu'en fait, y a plein de manières de faire grève et en vrai, arrêter de travailler, c'est une des solutions, mais il n'y a pas que ça. Et on s'est aussi dit du coup que ce serait trop chouette, on va tenter de faire une garde d'enfants pendant la manif pour que les mères et les parents puissent aussi aller manifester et venir avec nous. Et on a monté aussi une caisse de grève, c'est tout nouveau, mais voilà, pour essayer un peu que les femmes et minorisées de genre qui ne peuvent pas se permettre de faire grève parce que bah, ça coûte de la thune et qu'il faut bosser, bah, que ces personnes puissent en fait venir demander de la thune à l'AG Féministe et qu'on puisse leur rembourser leur journée de travail perdue, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment perdu du coup.
C'est pour ça également qu'on a plein d'événements qui arrivent, notamment, bah ouais, notamment vendredi qui arrive, on a une boum féministe, justement, dont, en prix libre, où l'argent reviendra à la caisse de grève féministe. Elle se déroule au centre LGBTI à 20h. Et on a également le 5 mars le vide dressing, qui est pareil. L'argent reviendra entièrement à la caisse de grève féministe.
C'est où ?
Salle rouge, je crois.
C'est en préparation.
En cours de préparation.
Okay. Et j'imagine qu'il y a moyen de retrouver les infos sur le site internet CRIC, par exemple. Ou... D'autres choses à ajouter sur les projets de l'AG Féministe ou des derniers mots sur ce que...
On n'a pas forcément présenté ce que c'était l'AG Féministe. L'AG Féministe, c'est une assemblée générale qui est ouverte aux individus autant qu'aux organisations qui en non-mixité choisie sans hommes cis, pour l'instant en tout cas. On se réunit à des endroits divers... à peu près toutes les deux semaines, des fois plus quand il y a besoin, notamment par exemple en ce moment pour organiser le 8 mars. Vous pouvez retrouver les infos, alors j'ai l'Insta en tête mais pas autre chose, mais sur Insta c'est ag-féministe38 et on a aussi un mail que j'ai pas en tête. C'est pas grave, tant pis pour vous, vous avez qu'à utiliser Insta. Et voilà, et du coup on organise... Pardon
et, Non bah oui c'est ça, c'est que...
Et du coup, moi j'y suis depuis le début de l'année, mais c'est nous par exemple, y a eu l'organisation de la manifestation pour l'IVG le 28 septembre, l'organisation d'une journée, voire d'une semaine d'action pour la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Là on organise le 8 mars, et on essaye d'organiser la lutte féministe sur Grenoble.
Trop ouais. Bien. Et est-ce que vous avez envie, je sais pas, peut-être en tour ou pas des dernières choses à partager pour ce plateau, avoir 20 ans comme dégenré, des envies, des coups de gueule, des souhaits.
Moi, je voulais juste dire que je suis venue ce matin et du coup, je vous ai tous vus un peu là, les gens qui sont à dégenrer et les copaines de Radio Rageuse depuis ce matin. Et je suis rentrée dans le studio et j'ai un peu pleuré parce que ça, c'est grave émouvant de vous voir parce que ça donne grave de la force. Et c'est trop bien. Et voilà, je vais rentrer. Je vais pleurer aussi. Et ça donne grave de la force et ça dit que, bah, y a, enfin, on pourrait être comme ça, nous aussi, dans 20 ans, ce serait trop stylé. Et voilà, c'est trop bien.
Bah, vous avoir en studio donne grave de la force.
Et puis même, genre, quand on est arrivé à Eve et de voir toutes ces féministes de plein de mouvements différents, de plein d'organisations, et genre, ça fait juste trop plaisir d'être entourée et de voir qu'on est aussi nombreuses, et c'est trop cool, quoi.
Un dernier mot. Fatma, Hanan.
Moi, j'aurais envie de... Je sais pas, j'ai encore plein de trucs à dire, mais comme d'hab.
Tu reviendras à la radio.
Mais ouais, j'aimerais... Il y a un truc que j'aimerais trop pour le futur, c'est qu'on arrête de nous traiter d'hystérique. Parce qu'en vrai, il y a de la colère et on sait très bien d'où elle vient. Et moi, je trouve que c'est trop bien de laisser exprimer sa colère. Genre, faut continuer. C'est un beau moyen aussi d'avancer, je trouve.
Moi, juste, je trouve ça génial ce que vous avez organisé aujourd'hui. Et je suis trop contente d'avoir participé à ça. Et ouais, ça donne grave de la force, en vrai, de voir que... On a un bon petit nombre et je trouve ça trop bien.
Bah, merci beaucoup à vous pour ce plateau. Ça m'a fait trop plaisir en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros enthousiasme dans tout le bâtiment. Et bah, le morceau, ce qu'on doit se quitter, le morceau de fin, c'était Meryl Bébé Compte. Pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Il y a plein de raisons d'écouter ce morceau, mais entre autres.
Parce que Meryl, c'est une super rappeuse féministe et qu'on aime trop les femmes qui font du rap. Parce qu'il y a trop d'hommes qui font du rap.
Et parce qu'on a une caisse de grève à remplir.
Voilà. Et ben, on se quitte sur Bébé Compte et n'hésitez pas à mettre de la thune dans la caisse de grève. Ciao pour la suite.
Bébé Compte. Compte les billets sur la table, bébé compte, compte. Compte les billets sur la table, bébé compte, compte. Compte les billets sur la table, faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Hey, j'ai acheté la voiture, 13 000 euros, faut payer l'assurance. Bébé compte, acheter le terrain, construire la maison, faut payer les taxes. Bébé compte, Gucci, Burberry, Louis, dans la manche, je fais de la concurrence. Bébé compte, battu pour ton dû, divise en deux, faut donner à l'État. L'argent est dehors, toutes les saisons, j'ai quitté la maison et j'ai raison. Je veux me refaire, j'aime bien me saper, papa a semé, faut partager. Mercredi décembre, c'était la fête, 9 mois après, y'a bébé naissant. Petit bout de plastique, au bout de la digue, t'aurais fait faire les économies. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table, bébé compte, compte, compte les billets sur la table, bébé compte, compte, compte les billets sur la table, faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Bébé compte, 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 compte les billets sur la table, bébé compte, 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 compte les billets sur la table, bébé compte, 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 compte les billets sur la table, faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Ma foi m'appartient, arrive à l'église, faut payer la quête. Bébé compte, pas les doigts d'être pauvre, même à découvert, faut payer la banque. Bébé compte, pour la sécurité, faut serrer la ceinture, les petits font la tête. Bébé compte, l'amour c'est gratuit, mais si t'aimes la petite, faut lâcher la rente. J'passe à la télé, je suis apprêté, il veut me maquer. En vrai, je suis fâché, mais je m'en bats les couilles, ce soir je vais tout plaquer. Meilleur ouvrier, mais ça sert à rien si ton patron est bègue. Moi je ramène un bain, une fois que c'est fait, je les prends en sandwich. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Bébé compte, compte. Les billets sur la table, les billets de 5, les billets de 10, les billets de 20, billets de 50, billets de 50, les billets de 100, billets de 200, c'est beaucoup d'enfants. Un peu pour l'avocat, un peu pour le comptable, un peu pour les enfants, un peu pour maman, un peu pour bébé, un peu pour la malade, un peu pour manger, le reste c'est pour vivre. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table, bébé compte, compte, compte les billets sur la table, les billets de 5, les billets de 10, les billets de 20, billets de 50, billets de 50, les billets de 100, billets de 200, c'est beaucoup d'argent. Bébé compte. Bébé compte. Bébé compte. Bébé compte.
Radio Campus Grenoble 90.8.
20 ans, t'es 20 ans.
Déjanré.